Bonjour et bienvenue dans le podcast À la découverte de soi de l'évêque Michel Ambourouet. Chaque semaine, vous y trouverez toutes les ressources essentielles pour favoriser le développement de votre relation avec le divin, avec vous-même et aussi avec les autres. Prenez une bonne inspiration et laissez-vous guider sur le chemin de votre transformation vers le leadership. Bonne écoute.
Ce matin, je veux parler de restauration. Je veux que vous compreniez déjà que dans cette vie-ci, qui que vous soyez, vous allez rencontrer sur votre chemin des situations qui vont vous emmener à perdre des choses, des opportunités et même des relations. Personne ici ce matin ne peut dire « je n'ai jamais rien perdu dans ma vie ». C'est peut-être que tu n'as pas encore vécu. Mais si tu as vécu, tu es conscient que cette vie est faite de gains et de pertes. Et j'ouvre la parenthèse ici pour dire à quelqu'un, il faut savoir ce que tu veux gagner, mais il faut aussi savoir ce que tu es d'accord de perdre. Il y a des choses que vous ne gagnerez pas dans la vie si vous n'êtes pas d'accord de laisser partir d'autres choses. Est-ce que vous m'entendez? L'une des choses qu'il va falloir que vous appreniez à faire dans la vie, et c'est, je prie que ça aide quelqu'un, c'est un réma, c'est une parole à propos, c'est une réponse à la question que quelqu'un se pose. Je dis, Dieu t'a donné le pouvoir de dire non. Il faut que tu sois conscient que dans cette vie, si tu veux aller quelque part, tu vas devoir apprendre à dire non. Tu ne dois pas penser que c'est parce qu'on te sollicite que tu dois dire oui. Je vais pousser. Ce n'est pas parce que tu es seul que tu dois te mettre avec n'importe qui. Ce n'est pas parce que tu as besoin d'argent que tu dois accepter n'importe quel travail. Ce n'est pas parce que tu es un homme d'affaires que tu dois accepter n'importe quel contrat. Il faut que tu saches quand dire non. Entraîne-toi, regarde ton voisin, dis-lui non. Suivez-moi. Imaginons que ces deux jeunes hommes vous représentent. Dans cette vie, c'est possible d'avoir le sentiment qu'on a tous la même ligne de départ. Mais je vais vous dire que ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui commencent avec moins que d'autres. D'un point de vue humain, il y a des gens qui commencent avec plus que d'autres. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il n'y a personne qui commence sans rien. Dis Amen. Amen. Dis à ton voisin, même si tu as l'impression de ne rien avoir, tu as quelque chose. Tu n'as peut-être pas les parents, mais tu as l'intelligence. Tu n'as peut-être pas l'argent, mais tu as le contact facile. Et je veux que vous compreniez que pour t'aider à atteindre ton destin, Dieu ne te donnera pas ce dont l'autre a besoin. Il te donnera ce dont toi tu as besoin. Donc il faut dès le départ sortir de cette mentalité de comparaison négative ou néfaste qui fait que tu te compares à celui qui a ce que tu n'as pas. Et donc tu perds de vue ce que tu as mais qu'il n'a pas. Regarde ton voisin, dis-lui, j'ai quelque chose que tu n'as pas. Et tu as quelque chose que je n'ai pas. Bref, ils commencent à marcher. Et alors qu'ils évoluent, tous en même temps. Mais quelque chose dans la vie fait que celui-ci soit arrêté, bloqué. Pendant que son voisin, son frère, sa sœur continuent à avancer. Écoutez-moi. Dans le contexte de la vie, à un moment, tu peux réaliser que tu es bloqué et tu ne sais pas ce qui te bloque. Parce que ce qui te bloque n'est pas visible. Ce qui te bloque est invisible. Tu fais des efforts, mais tu n'avances pas. Tu te bats, mais ça ne marche pas. Tu investis, mais tu n'as pas de retour sur investissement. Tu étudies, mais tu n'as pas l'examen. Tu fais ce que tu sais faire. Tu rentres en relation, mais les relations ne tiennent pas. Parce qu'il y a quelque chose d'invisible qui te bloque. Et je suis venu dire à quelqu'un que la vie ne se vit pas seulement avec ce qu'on touche et avec ce qu'on voit. La Bible dit il n'y a rien de visible qui ne vienne de l'invisible. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je dis ce que tu vis a sa source dans l'invisible. Il y a quelque chose dans le monde invisible qui justifie que malgré tes efforts, tu n'avances pas. Malheureusement, la plupart des gens vivent conscient du monde naturel, mais totalement ignorant du monde spirituel. Lorsqu'il est bloqué et qu'il vient à l'église et qu'il rencontre les frères et les sœurs, un homme de Dieu, que l'atmosphère est propice et que le blocage tombe. Oui, il recommence à avancer, mais en réalité, il a perdu du temps. Certains d'entre vous, vous vous êtes convertis à 30 ans, à 40 ans, à 25 ans, à 60 ans. Oui, vous avez donné votre vie à Christ et vous êtes maintenant rentré dans un autre royaume et vous avez accès à une autre vie, la vie abondante. Mais sauf que tu n'as plus 100 ans devant toi. Le temps que tu as perdu, normalement, dans des conditions normales, tu ne le rattraperas jamais. Quelqu'un a dit que, comment dit-il, la chose qui a le plus de valeur sur la terre, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Voilà pourquoi vous devez refuser de perdre votre temps. Je parle à quelqu'un ce matin. Je dis, tu dois refuser des relations qui te font perdre du temps. Tu dois refuser des opportunités, un travail qui te fait perdre du temps. Tu dois refuser de perdre ton temps. Le temps, soit vous le perdez, soit vous le dépensez, soit vous l'investissez. La plupart des gens, malheureusement, perdent du temps. Non seulement vous perdez du temps, mais vous faites perdre du temps aux autres. Bref, donc, le blocage est ôté. La restauration, c'est quoi? La restauration, c'est que Dieu le prenne par la main et le ramène au niveau où il devait être s'il n'avait pas perdu le temps. Est-ce que vous me comprenez? Un exemple. Si par exemple, à cause de situations et de choses dont je vais parler courtement, tu te retrouves à avoir perdu 10 ans, même si tu te maries après ces 10 ans et que tu commences à avoir tes enfants, tu auras un enfant tous les ans, tous les 3 ans. La personne qui n'a pas eu le même blocage que toi avance et n'est pas en retard dans ce domaine. Si Dieu doit te rendre le temps, si Dieu doit racheter ton temps, c'est pas que tu vas repartir et avoir 20 ans à nouveau. Mais c'est qu'en réalité, en un an, Dieu doit te donner ce que tu as perdu en 10. Vous ne m'entendez pas. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un enfant tous les 3 ans, Dieu va te donner des triplés. Mon Dieu, mon roi. Que Dieu vous bénisse. Que quelqu'un dise restauration. Quelqu'un dise restauration. Le texte que j'ai lu avec vous donc indique que Dieu rachète les années qu'ont dévorées, le Hazal, etc. Je veux vous montrer quelque chose. C'était dans mes notes, mais je ne l'ai pas dit au premier culte. La Kaliate Siprade Sopariada. Idedeha. Joël 1:1. Je parle de restauration des familles. Et Dieu va m'aider, je vais dire ce que je veux dire ce matin. La Kaliate les paras. Joël 1:1, lisons. 1, 2, 3. La parole de l'Éternel, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard, on avance. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants et que vos enfants et leurs enfants. On parle donc de plusieurs générations. Dieu s'adresse donc à un peuple. Dieu s'adresse à un peuple composé de familles. Et il leur parle au travers du prophète Joël en disant, écoutez, parlez de ce qui arrive, parlez de ce qui va arriver, vous à vos enfants à leurs enfants, et finalement leurs enfants aux prochaines générations. Écoutez, le verset 4 dit, le Gazam dévore. Ce que le Gazam laisse, la sauterelle le dévore. Ce que la sauterelle laisse, le Gélec le dévore. Ce que le Gélec laisse, le Hazil l'a dévoré. C'est pour ça qu'en Joël 2, il nous a dit, je vous rendrai. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le Gélec, le Hazil et le Gazam. Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je sais que vous savez que certains d'entre nous, nous avons le sentiment que nous ne connaissons pas qu'une seule perte, nous connaissons des successions de pertes. Tu n'as pas juste perdu du temps dans les affaires, tu as perdu du temps dans les relations. Tu n'as pas juste perdu du temps dans les relations, tes enfants sont en train de perdre du temps. Tu n'as même pas juste perdu du temps dans les affaires et dans les relations, tu as perdu du temps à l'église. Tu changes d'église tous les 5 ans. Tu n'as pas juste perdu du temps par rapport à l'église, tu as même essayé de déménager. Tu es parti dans un autre pays et tu as passé 5 ans, 10 ans, tu reviens à la case départ et tu n'as rien pour montrer que tu as été quelque part. Mon Dieu, mon roi. Naomi revient à Bethel, la maison du pain, après avoir été avec son mari et ses 2 enfants. Quand elle est partie, elle avait un homme et elle avait 2 fils. Quand elle revient, elle n'a plus de mari, elle n'a plus d'enfants, elle n'a qu'une belle-fille. Je veux vous dire que c'est possible d'avancer et de reculer. C'est possible de faire un pas en avant, mais tu te retrouves 4 pas en arrière. C'est possible de te dire que là, ça va prendre et tu y vas. Et finalement, tu te rends compte que tu as perdu du temps. Que quelqu'un dise restauration.
Restauration.
Oh, que quelqu'un crie restauration.
Restauration.
Dis Seigneur,
Seigneur,
remplace-moi.
Remplace-moi
les années qu'on dévorait. Mes ennemis, au nom de Jésus. C'est pour ça qu'on doit prier ce soir. Parce que Dieu m'a dit, il veut nous restaurer en famille. Maintenant, suivez-moi, c'est majeur que vous compreniez. Oh Dieu, je me suis demandé, comment est-ce que Dieu restaure une famille? Il faut d'abord que vous acceptiez de comprendre qu'une famille peut perdre du temps collectivement. La plupart d'entre vous, vous pensez individuel. Moi, moi, moi. Mais tu ne te rends pas compte que l'une des choses qui joue contre toi, c'est ta famille. Est-ce que je peux vous parler 30 secondes? Pourquoi est-ce que quand toi, tu as commencé ta vie, tu l'as commencé dans une étable? Et pas au palais. C'est possible d'être roi, mais à cause de ses parents, de naître dans une étable. Mon Dieu, mon roi. C'est possible que quand Dieu t'appelle, ton destin c'est la grandeur, mais tu nais dans une famille de médiocrité. Vous m'entendez pas? C'est possible d'avoir des rêves en termes de royaume. Mais chez toi, personne n'a même un bout de terre. Est-ce que vous savez que les parents sont capables de donner un avantage à leurs enfants? Ce n'est pas la même chose que de grandir dans une famille où les gens ne sont pas cultivés, où les gens n'ont pas appris, personne n'a fait de grandes études, et puis de naître dans une famille où tout le monde, le minimum, c'est le doctorat. Ça veut dire que la limite, le soubassement, c'est le doctorat. Quand tu arrives, tu ne peux pas faire moins parce que tout est mis en place pour que tu réussisses. Et puis toi, tu viens dans une famille où le minimum, c'est le CEP. Le maximum, c'est le bac. Et quand toi, tu aspires à faire des études universitaires, les gens te disent, ici, personne n'a fait ça. Reste tranquille, il n'y a pas l'argent pour ça. Je sais que vous ne voulez pas dire la vérité. Tu as des aspirations qui sont en désaccord avec ta famille. Tu as des rêves qui ne matchent pas avec la famille dans laquelle tu es né. Est-ce que vous savez que Joseph est fils de David? La Bible. Est-ce que vous savez que dans les Saintes Écritures, Joseph, le père adoptif de Jésus, le mari de Marie, l'époux de Marie, est fils de Joseph, de David? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Joseph est un roi. Écoutez-moi bien. Sauf que dans le naturel, Joseph est charpentier. Vous allez m'entendre. Jésus n'est pas charpentier parce que c'est son appel. Jésus est charpentier parce que c'est le travail de son père. Ça veut dire que les parents imposent une direction de vie à leurs enfants, même quand ils ne parlent pas. Oh, Dieu vivant d'Israël. Mon Dieu, mon roi. Joseph, tu fais quoi à travailler le mois? Et c'est sur le bois que Jésus va mourir. Parce qu'il y a dans sa famille une malédiction qui fait que les rois ne règnent plus. Quoi qu'il soit de la bonne lignée, c'est possible d'être du bon sang, mais de ne pas vivre ce que son sang dit. Donc quand Jésus, on l'adore comme roi, Dieu veut restaurer à la famille la royauté. C'est pas juste toi que Dieu veut élever. C'est Dieu veut restaurer ta famille. Menace quelqu'un à côté de toi. Dis-lui, tu n'as pas le droit d'échouer. Non, menace-le bien. Dis-lui, tu n'as pas le droit d'échouer. Ton succès est une affaire de famille. Comment est-ce que ça fonctionne, mon Dieu, mon roi, le temps? Jacob est fils d'Isaac. Isaac est fils d'Abraham. Jacob, malgré le fait qu'il soit le fils d'Abraham, Jacob va passer 20 ans et plus chez son oncle et il va perdre du temps. 14 ans pour se marier. Alors que lui-même était d'accord de perdre 7. Oui, il dit, c'est pas juste. C'est pas juste ce qui t'arrive, c'est pas juste. C'est pas qu'il n'a pas trouvé la femme. C'est pas qu'elle ne l'aime pas. C'est pas qu'il ne s'aime pas. Il s'aime. Mais il n'arrive pas à se marier. Regarde quelqu'un dit, ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est pas que les gens ne te donnent pas des affaires, ils te donnent des marchés. Mais au moment, entre le moment où ils te disent il y a le marché, le moment où la personne dit maintenant ok, on va payer, on va signer le contrat, la nuit, le lendemain, il y a un changement de cœur. Tu appelles, elle ne décroche plus. Vous vous êtes séparés en bon terme, vous étiez content, tout le monde était d'accord. Et puis elle va te dire ah non, j'ai changé d'avis. Comment tu as changé d'avis? Mon Dieu, mon roi. Il s'appelle Jacob. J'ai lu mon texte parce que je me suis dit, les gens à qui Dieu parle, mon prophète, c'est ces gens-là, c'est Israël, c'est une famille, c'est un peuple. Mais la vérité, c'est que ce peuple vient de lui. Jacob, Israël égale Jacob. Israël égale une famille. Les 12 fils de Jacob. Israël égale un peuple. Je vais dire des choses qui ne sont pas simples. Quel est notre héritage en tant que peuple gabonais? Dans mes recherches et dans mes études, j'ai réfléchi, ce n'est pas le lieu peut-être de dire ça, mais je vais quand même le dire. J'ai réfléchi sur l'évolution. L'évolution, le principe que normalement on doit évoluer, evolve, on doit devenir meilleur, on doit se rapprocher de la pensée divine nous concernant. Est-ce que je peux vous choquer? La pensée divine pour nous, ce n'est pas la France. Si on veut savoir à quoi Dieu veut qu'on ressemble, on ne doit pas regarder aux États-Unis. On ne doit pas regarder à l'Europe, on ne doit pas regarder à l'Occident. Il y a quelque chose que Dieu a déposé pour le peuple africain qui ne se trouve pas en France, qui ne se trouve pas aux États-Unis, qui ne se trouve pas en Chine, qui ne se trouve pas en Corée. Ça se trouve en nous. Je ferme la parenthèse. Donc quand on veut attaquer Israël, en réalité, on doit s'attaquer à Jacob. Vous me comprenez? Si on s'attaque à Jacob, c'est qu'on s'attaque à Israël. Si on s'attaque à Israël, c'est qu'on s'attaque à Jacob. Je vais pousser parce que je suis en train de vouloir vous aider. Il me reste 12 minutes. Je lis le texte de Job. Job aime Dieu, craint Dieu, est un homme droit. Son éthique n'est pas remise en cause. Il est même spirituel puisqu'il fait, il bâtit des autels. Il comprend le principe de l'autel. Suivez-moi. Mais dans les cieux, dans un monde invisible, une discussion se passe. Une tractation se fait. Et Dieu laisse faire. Satan vient voir Dieu et dit à Dieu, parce que c'est Dieu qui commence, as-tu vu mon serviteur Job? Satan dit, je l'ai vu, mais il te craint parce que tu le bénis. S'il vous plaît. Dieu dit, c'est faux, il m'aime. Satan dit, c'est faux, il t'aime par intérêt. Et il dit, touche seulement à ses affaires, à ses biens, tu verras. Dieu dit, ok, va toucher à ses affaires, touche à ses biens, mais ne touche pas à sa vie. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Ses enfants meurent, tombés. Tombés. En un jour, le diable, par différents moyens, touche à ses affaires. Le même jour, il fait faillite. Le même jour, on prend tout son cheptel. Le même jour, on tue tous ses enfants. Derrière la perte de tout ça, il y a des éléments naturels. Il y a un vent, il y a des êtres humains avec des épées. Mais en réalité, derrière ça, il y a un diable. Écoutez-moi. Ça veut dire que quand toi, tu vas au travail et que une erreur banale arrive. Tu fais une erreur vraiment banale. Et qu'on décide de te licencier alors que les autres ont fait des erreurs plus graves. Mais que toi, on tape, toi, tu subis une attaque. Dans la Bible, il y a une femme, la Tsunamite. Elle n'avait pas d'enfant. Finalement, elle a l'enfant. Élisée est partie. La femme est avec son mari. Et l'enfant. L'enfant est dans les champs avec son père. Il dit, j'ai mal à la tête. Le papa dit, ramenez-le à la maison. On le ramène à la maison. Il meurt sur les cuisses de sa mère. Le même esprit qui avait bloqué son ventre en a après sa progéniture. Élisée dit, prends le bâton, va mettre. Non, en fait, écoutez-moi. Quand les enfants la meurent, vous allez me dire, en fait, les enfants étaient attaqués. Je vais vous choquer. Eux, ils ne sont pas attaqués. C'est Job qui a attaqué. Les attaques de ton père affectent ta vie. Mon Dieu. Les attaques de ta mère affectent ta vie. Vous m'entendez ou pas? Ce que tu vis n'est pas simple. Ce n'est pas normal. Comment ça se fait que tu es la copie conforme de ta mère, de ta grand-mère, de ton père, de ton grand-père? Comment ça se fait? Tu portes le nom de quelqu'un que tu n'as jamais vu. Mais finalement, quand tu fais des recherches, vous vivez exactement la même chose.
C'était À la découverte de soi, le podcast de l'évêque Michel Ambourouet. N'hésitez pas à utiliser chacune des ressources qui vous a été utile dans l'épisode que vous venez d'écouter. Et surtout, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le et rendez-vous sur michelambourouet.com pour encore plus de prédications et d'enseignements pleins de sagesse. À la découverte de soi vous est proposé par MA Organisation.